Le texte d'aujourd'hui est vraiment au cœur de la foi chrétienne, je le crois, puisqu'il parle à la fois de qui est Jésus et à la fois de comment le suivre. C'est une question qui est posée aux disciples, qui est ce que les foules disent que je suis, puis vous, qui dites-vous que je suis? Alors cette question, elle arrive pas n'importe quand, elle arrive au moment où symboliquement l'Église est déjà un petit peu fondée. Au début du chapitre, Jésus a envoyé les 12 avec, en leur donnant le pouvoir sur les démons et le pouvoir de proclamer le royaume de Dieu. Ils vont, ils ont tout ce ministère et ils reviennent. Et quand ils reviennent, ça finit par ce grand repas où toutes les foules viennent écouter Jésus, et où il y a plus de 5000 personnes qu'on assit par rangée de 50 comme ça, et où Jésus multiplie les poissons et le pain. Et à la fin, il reste 12 corbeilles, 12 comme les 12 apôtres, comme les 12 tribus. Tout cela nous montre que vraiment là est née la prédication de ceux qui vont suivre Jésus. Là est née en quelque sorte l'Église. Et pourtant, il y a encore cette question, mais qui est-ce qu'on dit que je suis? Cette question, on pourrait se la poser pour nous aujourd'hui. Si on demande dans le monde qui est Jésus, beaucoup vous répondront, bah, Jésus c'est un grand sage qui a parlé d'amour formidablement, qui a fait des choses vraiment très bien. Les juifs vous diront « Jésus, c'est un grand rabbin ». Les musulmans vous diront « Jésus, c'est un grand prophète ». Certains vous diront qu'il a été peut-être surestimé par l'Église. Et vous, qui dites-vous qu'est Jésus? Cette question, elle est adressée durant tout l'Évangile, durant toute la Bible. D'ailleurs, c'est étonnant parce que toute la Bible, au fond, parle de Dieu, l'histoire de Jésus est mis en récit par Luc, par Marc, par Matthieu, par Jean. Et en tout cas, chez Matthieu, Marc et Luc, il y a cette question, qui dites-vous que je suis? Souvent, les musulmans reprochent aux chrétiens en leur disant, mais dans votre Bible, à aucun moment, Jésus n'a la parole qui dit, je suis le Fils de Dieu. Ça allait dans les épîtres, ça allait de bien des façons, mais ça n'allait jamais dans la bouche de Jésus. Pourtant, Luc, qui rédige son évangile, est assez catégorique là-dessus. Depuis le début, depuis son enfance, jusqu'à sa mort et sa résurrection, Luc est très au clair que le message qu'il veut faire passer, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Messie attendu qui accomplit toutes choses, par lequel l'œuvre de Dieu se réalise. Jésus est à la fois Dieu et à la fois homme. Alors pourquoi n'avoir pas mis cette parole dans la bouche de Jésus? Je crois que c'est un mystère de la narration qui peut être en fait une très grande richesse. Une richesse qui se dit, au lieu de dire « Je suis le Fils de Dieu », Jésus nous dit « Qui dites-vous que je suis ?» Ô combien cela est puissant, ô combien cela est différent. Au lieu de proclamer une parole à laquelle on doit dire « Oui », Jésus nous dit « Pour vous, toutes ces choses, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire de l'œuvre de Dieu ?» Et cette question, nous devons entendre et la comprendre aujourd'hui aussi. À nous de trouver cette réponse, à nous finalement de cheminer. La Bible n'est pas un livre de réponses qui nous sont données tout de suite. La Bible est un livre de cheminement qui nous invite à nous poser ces questions. Ce cheminement d'ailleurs, avant ce passage, il arrive de bien des façons. Jean-Baptiste a dit, il envoie ses disciples voir Jésus pour qu'il leur demande, pour qu'il lui demande, « Es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre ?» Un peu plus tard, Jésus pardonne les péchés d'une dame et les convives de ce repas disent « Mais qui donc est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Il y a après la tempête apaisée et ses disciples qui sont dans la barque avec lui demandent « Mais qui donc est-il pour qu'il commande même au flot et qu'il lui obéisse ?» Et enfin, il y a même la question de Hérode qui se demande, qui entend toutes ces rumeurs sur Jésus et qui dit « Mais quel est celui-ci dont j'entends dire de telles choses ?» Toutes ces questions qui viennent jusqu'à « Que disent les gens que je suis ?» et « Qui dis-tu que je suis ?» Cette question, elle est posée à Pierre. Pour Pierre, la réponse est le Messie de Dieu, littéralement « loin de Dieu ». Terme un peu technique du religieux, loin, celui qui reçoit l'huile sur lui, c'était le signe des rois. mais loin, c'était aussi le vocabulaire que toute la Bible avait utilisé pour parler de l'attente de quelqu'un qui viendrait, mais parler de Dieu comme personne, qui viendrait restaurer le royaume, qui viendrait rendre toutes choses belles. Tout ce vocabulaire, toutes ces attentes qui sont derrière, Pierre les récupère en disant « Je reconnais en toi, tu es cette personne, attendue par tout un peuple qui va faire des choses extraordinaires et je te suivrai. » Ce qui est intéressant, c'est que Pierre a déjà commencé à suivre Jésus avant. Pierre n'a pas su qui était Jésus dès le début, mais Pierre a suivi Jésus. C'est peut-être un petit peu déculpabilisant pour nous aujourd'hui où nous voulons être chrétiens, mais franchement, qui est Jésus reste parfois une question à laquelle on n'a pas une réponse définitive. Reste parfois une question qui nous fait avancer, qui nous pose, qui nous retient, qui nous donne à réfléchir. Qui est Jésus vraiment pour moi? Est-ce que je le confesse comme le Fils de Dieu, le tout transcendant, ou est-ce que je le confesse comme un homme formidable, un prophète? Est-ce que je lui donne une autorité sur ma vie? D'ailleurs, cette autorité sur ma vie, c'est peut-être là la charnière sur la deuxième partie, sur comment suivre Jésus. Jésus dit à Pierre de n'en rien dire. Il dit, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi le rejetteront, il sera mis à mort et le troisième jour, il reviendra à la vie. Il reviendra à la vie. Ça, c'est une parole que donne Jésus en réponse à cette confession « Tu es le Messie de Dieu ». Comme si, au moment où on confesse Jésus comme Messie, il rappelle « Si je suis Messie pour vous, soyez très au clair sur le fait que je suis Messie parce que j'accepte d'être livré et que je ressusciterai. » C'est pas que j'accepte d'être Messie même, c'est que je suis Messie parce que je le fais ainsi. Je ne suis pas venu pour la gloire, je ne suis pas venu pour imposer mon royaume, je ne suis pas venu avec le glaive, avec la puissance. Tout cela, vous l'avez vu, tout cela vous ont fait dire, je suis Messie. Mais maintenant, je vais vous montrer ultimement comment je suis le Messie. Je serai livré, je serai mis à mort, et le troisième jour, je reviendrai à la vie. Bien alors, la façon de suivre Jésus, quiconque veut me suivre, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. Alors, qu'il porte sa croix, évidemment pour nous, ça fait directement référence à Jésus portant sa croix jusqu'au Golgotha, humilié dans la rue. Ça fait directement référence à un supplice romain où les esclaves étaient invités à porter une croix, une sorte de une grosse traverse plus qu'une croix, et à aller dans la rue, les esclaves qui avaient été reconnus comme infidèles, et ils devaient aller dans la rue, et ils étaient injurés et tabassés par tous ceux qui le voulaient. Jésus, c'est ce qui nous invite à faire, à confesser finalement ce Messie. Au-delà même des injures, plus fort que les dangers, plus fort que les menaces, et même plus fort que la mort. C'est comme ça que lui-même l'a compris, c'est comme ça que les premiers chrétiens l'ont compris, c'est comme ça que les martyrs ont fait naître l'Église en acceptant d'être témoins, quand bien même cela voulait dire leur mort. C'est comme ça parfois que les gens du Moyen-Orient le comprennent, lorsqu'on leur demande de se convertir ou de mourir et qu'ils préfèrent être fidèles au témoignage qu'ils donnent. C'est parfois aussi le témoignage que sont obligés de rendre des convertis qui sont rejetés de leur famille parce qu'ils confessent le Christ, Fils de Dieu. Hérésie pour certains qui méritent la mort. Confesser Jésus-Christ qui est le Messie, confesser que Dieu se réalise dans cette croix, que Dieu se réalise en se donnant plutôt qu'en s'imposant, toutes ces choses qui résistent spontanément à notre humanité. Alors pour nous, aujourd'hui, nous sommes issus d'un monde chrétien et fort heureusement, nous devons en être contents, être témoins de Jésus-Christ Bah, c'est rarement la mort quand même, avouons-le, c'est beaucoup plus facile. Et pourtant, il y a des choses. Un pasteur qui avait été objecteur de conscience avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, avait dit, mais finalement, porter sa croix, est-ce que c'est pas la phrase qu'on a le plus affadie de toutes les phrases de Jésus? Est-ce qu'on n'a pas remplacé porter sa croix par serrer les dents et puis pas trop se plaindre quand il nous arrive un pépin? Alors qu'au fond, porter sa croix, ça veut dire, quelle que soit la menace, chercher à être témoin de ce, le Messie, le Fils de Dieu. Par toi se réalise l'œuvre de Dieu. Si aujourd'hui, on ne risque plus sa vie pour proclamer ça, il faut avouer que souvent nos bouches sont closes parce que c'est une parole qui peut causer finalement une perte, j'allais dire d'honneur, mais non, mais qui est dure à dire en société, reconnaissons-le. Il est dur à confesser Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est dur à l'annoncer à un voisin, il est parfois dur, nous en avons perdu l'habitude, parce que nous venons d'une société où tout le monde était chrétien, on n'avait plus besoin de le dire, ou c'était peut-être acquis. En tout cas, pour beaucoup, c'était assimilé à la culture. Alors, suivre Jésus, c'est bien sûr se battre pour la justice, s'engager pour la défense du plus faible, pour le respect de l'autre, pour le respect de la vie, de son prochain, toutes ces choses qui sont très importantes. Ces choses sont faciles, et en général, quand on les fait, enfin, sont faciles, demandent beaucoup de courage, mais nous permettent d'être bien vu. Par contre, d'un coup, confesser que Jésus-Christ est le Seigneur, c'est parfois plus dur. Et c'est la question qui nous invite à poser le texte. Alors peut-être on pourrait se laisser interpeller en disant, cette parole, si on ne voulait pas la pas dire, qu'est-ce que ça voudrait vraiment dire, Jésus-Christ est Seigneur pour moi? Et le texte poursuit un petit peu en disant, mais n'ayons pas honte de ma parole, et moi je n'aurai pas honte de vous. N'ayons pas honte de sa parole, n'ayons pas honte d'annoncer que Jésus-Christ est Seigneur dans notre vie. Cela veut dire déjà le découvrir, le rencontrer, vivre avec, cheminer avec, lire les Écritures, puis relever la tête et se dire qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment Jésus-Christ est Seigneur? Et puis après, ça veut dire comment est-ce que je suis fidèle à cette parole? Comment est-ce que je suis fidèle à cette foi dans ma vie, aujourd'hui, chaque jour? Être fidèle à cette foi, ça ne veut pas dire proclamer à tue-tête, sans discernement et avec un grand manque de tact. Oui, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus t'aime. C'est parfois un contre-témoignage là. Mais c'est être capable d'être ancré dans une parole, être ancré dans cette parole qu'on sait qui est Jésus pour soi. Et c'est être capable de la proclamer au moment voulu. De porter la croix peut-être, du témoignage, quoi qu'il nous en coûte. Voilà l'appel de Jésus, voilà le cœur du message chrétien, qui est Jésus pour moi, et suis-je capable de le suivre, quoi qu'il m'en coûte. Amen.